Alors, le miroir, objet à la fois banal et mystérieux, permet à celui qui se regarde de contempler son propre reflet. Il n'est pas rare, cependant, de voir les auteurs de littérature déconstruire ce précepte, comme c'est le cas de l'auteur José Saramago dans son roman « L'autre comme moi », donc publié en français en 2005. En effet, le roman qui rappelle William Wilson d'Edgar Allan Poe raconte la rencontre improbable entre un personnage et son sosie identique, en proposant une approche qui interroge les notions du double, du reflet et du miroir. Cette dernière figure, d'ailleurs, agit comme trame de fond métaphorique et littéraire dans le roman, dans une perspective de recherche identitaire de la part du héros. Les nombreux jeux de miroir dans L'autre comme moi ont pour effet de brouiller les pistes d'analyse jusqu'à remettre en question le fondement réaliste de l'histoire. On peut voir ces jeux dans les articulations que propose l'auteur entre double et miroir. En effet, celui-ci joue avec le double pour en faire une figure énigmatique et fantastique, et semble faire des doubles du roman non pas deux personnes, mais une seule, la même, redoublée. Nous verrons donc dans un premier temps comment le double se déploie dans le texte et comment cela vient convoquer la figure du miroir, le double étant ici, d'une certaine manière, une matérialisation du reflet du personnage. Ensuite, nous verrons comment le miroir est présent dans le texte et comment il opère des mélanges identitaires entre les deux personnages. Et finalement, nous en viendrons à proposer, à la suite de ces constats, une interprétation personnelle du texte. L'auteur, donc, met en scène la rencontre de deux personnages non seulement identiques, mais qui possèdent en eux des similitudes tellement importantes que ça anéantit la possibilité qu'ils soient simplement jumeaux ou tout simplement similaires de manière hasardeuse. Donc, nous avons Tertuliano Maximo Afonso, le personnage principal, qui est un professeur d'histoire à la vie plutôt banale, et qui rencontre son double, Antonio Claro, un acteur, par l'intermédiaire d'un film qu'il voit, dans lequel Claro apparaît. La description qui est faite des deux personnages dans le roman met en évidence la ressemblance physique qui les réunit. L'auteur insiste vraiment sur les similitudes absolues des deux personnages et va encore plus loin en rendant similaires même ce qui aurait pu les différencier. Par exemple, je cite, Tertuliano Maximo Afonso, jetant un coup d'œil sur le document d'identité, le rendit et déclara « Je suis né à la même date, la même année, le même jour et le même mois. » Les deux hommes sont donc non seulement totalement identiques, mais sont également nés le même jour. Des jumeaux posséderaient certaines différences quand même, ce qui n'est pas le cas des deux personnages, car les ressemblances entre Tertuliano et Antonio sont, et je cite encore, « totales, absolues, même les empreintes digitales sur leur carte d'identité sont pareilles. » Le fait qu'ils partagent ce trait identitaire unique nous amène donc à penser qu'ils ont une même identité en commun et qu'ils ne sont pas deux, mais un. En plus d'avoir une apparence physique totalement identique ainsi que de partager les mêmes empreintes digitales, les descriptions mettent en évidence que Tertuliano Maximo Afonso et Antonio Claro ont des ressemblances mimétiques dans leur vie. En effet, les deux personnages ont vécu des événements semblables dans le passé, par exemple, un même accident qui leur a laissé la même cicatrice au même endroit. Cette proximité de leur passé est particulièrement hasardeuse, voire impossible, à moins qu'ils ne partagent le même passé. De la même façon, les changements d'apparence physique qui ont cours dans leur vie se font en même temps. Les deux personnages semblent donc évoluer en fonction de l'autre, un changement chez l'un provoquant automatiquement un changement chez l'autre. Ce genre de progression simultanée de vie est impossible, voire fantasque, et on voit ici que les similitudes dépassent le simple physique pour aller dans le domaine de la vie et de l'identité, qu'ils semblent partager. Sinon, en quoi il serait très improbable que de tels événements analogues se produisent par hasard dans leur vie respective? En dépit de leur ressemblance tout à fait exacte, les deux personnages présentent des différences au niveau moral. Alors que le personnage de Tertuliano semble vouloir entrer en contact avec Antonio Claro de manière pacifique, Antonio, pour sa part, dégage une attitude violente et menaçante. Et je cite, il dit « Si j'avais une arme sur moi, vous seriez un homme mort. » Donc, Antonio semble agir par pure méchanceté, cherchant aussi à se venger de son double et de la manière dont celui-ci est entré en contact avec lui. Le caractère violent du personnage d'Antonio s'oppose donc totalement à celui de Tertuliano. Ce constat est intéressant puisqu'il nous amène à entrevoir une possibilité reliée à notre hypothèse. Donc, en assumant que Tertuliano et Antonio partagent la même identité, ils pourraient incarner les deux côtés opposés d'une personnalité et ainsi Antonio incarnerait le côté négatif de Tertulliano, qui lui serait le côté positif. Et de cette façon, il serait possible que le double, tout en conservant sa similitude physique avec le personnage principal, s'y oppose moralement. Cette comparaison au miroir, qui se bâtit alors dans la relation entre les deux personnages, met l'emphase sur l'idée du reflet. Le reflet d'une personne est à la fois sa copie parfaite et son total opposé, puisque ce qui est reflété dans le miroir est inversé par rapport à elle. Le reflet n'est donc pas la copie identique de celui qui se regarde dans le miroir, mais son inverse. Clément Rosset, dans son livre « Le réel et le double », affirmait ceci. « La symétrie donne non pas la chose, mais son autre, son inverse, son contraire, sa projection selon tel axe ou tel plan. » Le double est donc, en quelque sorte, l'incarnation du reflet du personnage de Tertulliano en étant à la fois sa copie conforme et son opposé. Otto Rank y fait même allusion en parlant du double identique comme quelqu'un qu'on aurait volé à une glace. On pourrait donc dire, suite à ce constat, qu'Antonio Claro est en quelque sorte le reflet de Tertulliano Maximo Afonso, comparaison qui est maintes fois illustrée par l'auteur, nous le verrons, par l'intermédiaire du miroir. Cette différence morale entre les deux personnages fait apparaître en eux un conflit basé sur le désir de domination. Le personnage d'Antonio Clavo fait voir à plusieurs reprises sa volonté d'établir un rapport de force avec son double, dans lequel lui serait le dominant et l'autre le dominé. Le besoin pour Antonio de savoir aussi qui est l'original et qui est la copie illustre parfaitement ce phénomène. Le désir de supériorité d'Antonio est doublé de celui de diminuer son adversaire. Ce constat est illustré dans la connotation négative associée au terme de duplicata dans l'histoire, terme qui est relié au reflet, alors associé à la faiblesse. Cette dévalorisation par la faiblesse se voit aussi dans la peur qu'a Tertulliano de se voir assigner le rôle du dominé, la peur que l'autre soit lui, l'original, et lui une simple répétition, dévalorisée d'avance, un simple reflet. En bref, parce qu'il les rassemble, donc leur totale similarité, et ce qui les oppose, Tertulliano et Antonio semblent partager la même identité sans partager le même corps. Nous pouvons donc voir que le double, comme il se déploie dans le roman de Saramago, part de la même personne et évoque le miroir, le second personnage considéré ainsi comme le reflet inversé du premier. Ensuite donc, tout au long du roman, les identités des deux personnages se confondent, comme dans le fond s'ils ne fondaient qu'un, qu'ils étaient en fait qu'une même et seule personne. Ces transferts identitaires de l'un à l'autre, comme nous allons les appeler, démontrent la porosité des deux identités qui, en se mélangeant, vont s'intégrer l'un à l'autre et donc semblent ainsi appartenir seulement à une seule personne. Les transferts identitaires dans le texte se font par l'intermédiaire d'un objet précis qui est le miroir. En effet, à quelques reprises dans le texte, l'objet semble être le lieu donné de transfert, donc la surface du miroir devenant poreuse pour devenir un lieu de mélange. Des mutations donc se produisent, d'abord par l'intermédiaire de l'objet physique, qui permet, même en l'absence du double, d'établir un contact, et donc de permettre quand même au personnage de devenir l'autre. Ce premier exemple, tiré du texte, donc, montre que par le miroir, le personnage a accès à l'identité de l'autre et qu'en quelque sorte, il le devient momentanément. Donc, et je cite. En cet instant, Tertulliano Maximo Afonso est devenu cet acteur dont nous ignorons le nom et la vie. Le professeur d'histoire dans l'enseignement secondaire n'est déjà plus là. Cet appartement n'est pas le sien. Le visage dans le miroir a définitivement un autre propriétaire. Le miroir est donc, en quelque sorte, un objet par lequel les transferts peuvent avoir lieu. Les deux personnages sont donc ainsi reliés par leur identité. Et des jeux de miroir sont alors possibles, permettant une usurpation momentanée de l'identité de l'autre. Et donc, le miroir permet un contact privilégié en l'absence du double. Et dès que cette surface se brouille, le contact possible disparaît. Par exemple, dès que Tertulliano lave le miroir avec la mousse, le reflet présent dans le miroir s'en va et le personnage se retrouve immédiatement à nouveau seul chez lui. Le miroir donc sert en quelque sorte de lien entre les deux personnages doubles. Et plus précisément, il semble établir un lien mental qui permet à l'un et à l'autre de rester en contact identitaire, de les rassembler. Et ainsi, une coupure de ce lien brise donc le contact entre les deux Et Tertulliano redevient donc, nous l'avons dit, seul chez lui, mais aussi, métaphoriquement, seul à l'intérieur de lui. Plusieurs transferts, donc, font appel au miroir en tant qu'objet physique pour s'établir. À d'autres moments dans le roman, ces échanges y font appel, mais par l'intermédiaire d'une métaphore. Dans ces extraits, l'objet n'est pas présent, mais il est convoqué par l'appel à des figures qui y renvoient. Par exemple, le simple fait que les personnages se retrouvent l'un devant l'autre reconstitue la forme métaphorique du miroir, recréée ici par les deux corps face à face. Un transfert peut donc avoir lieu. Par exemple, à la page 172, je cite, « Vous restez là, vous regardez tous les deux en chaîne faïence, chacun le reflet de l'autre, mais un reflet différent. » Donc ici, par l'utilisation du terme « reflet », on voit que la figure du miroir est volontairement convoquée par l'auteur. Et donc, debout devant son double, Tertulliano devient l'autre. On rencontre aussi cette métaphore plus loin dans le roman, alors qu'Antonio Claro se déshabille et qu'ainsi il devient l'autre. Je cite. Antonio ôta sa chemise d'un seul mouvement, se déchaussa et retira son pantalon, puis ses sous-vêtements et enfin ses chaussettes. Il était nu de la tête aux pieds et de la tête aux pieds, il était Tertulliano Maximo Afonso, professeur d'histoire. Debout devant l'autre, les deux personnages, face à face, agissent comme un reflet l'un de l'autre. Tertulliano et Antonio recréent donc physiquement le miroir dont leur double est issu. Associés à cette idée, les jeux de partage d'identité entre le personnage et son double sont aussi perceptibles par les traces qui restent présentes chez l'un et chez l'autre, lorsque ceux-ci ne sont pas présents. En effet, une certaine présence, que nous appellerons ainsi par faute de savoir ce que c'est, agit comme un rappel de l'autre, sans que ce soit la personne réelle qui soit là. Donc, dans la citation prochaine, les personnages remarquent une présence dans leur appartement. Antonio Claro, par exemple, le ressent, et je cite. « L'apparition de cet homme est en fait que nous ne pouvons ni effacer, ni supprimer, même si nous ne le laissons pas rentrer, même si nous lui fermons notre porte, il attendra de l'autre côté. Il est déjà rentré, il est dans ta tête. » La présence, donc, ou la trace, qui demeure attachée au personnage est comme un rappel de sa présence. Suite à la prise de conscience de l'existence de leur double, cette présence ne décollera plus. La dernière citation exprime ce lien qui apparaît entre les deux personnages et qui les relie, sans possibilité de s'en défaire. Les deux personnages sont donc interreliés très fortement. Ils prennent place dans la tête de l'autre, comme s'ils partageaient la même identité, comme s'ils étaient désormais inséparables d'esprit. Mais plus que chez les doubles, cette présence peut également être ressentie par les autres personnages autour d'eux. La femme d'Antonio, par exemple, s'aperçoit à un certain moment, et je cite, « qu'il y avait une autre respiration dans l'appartement. Quelqu'un était rentré. Il n'y a personne. C'est ton imagination. » Ce dernier extrait, donc, montre que la femme d'Antonio est désormais tout aussi inséparable de la présence du double que son mari, comme si les doubles étaient désormais indissociables, partageant non seulement la même apparence, mais le même esprit commun et partagé. Finalement, la possibilité d'un partage d'identité, la lutte de domination entre les personnages et son double, ainsi que la forte référence au miroir et au reflet, nous amène à voir le roman comme la représentation d'un conflit interne chez le personnage. En effet, Tertulliano et Antonio, étant considérés comme une seule et même personne, nous proposons que le roman serait une illustration dans le réel d'un conflit qui se passerait en fait à l'intérieur du personnage principal. Dans son livre « Le miroir de la sorcière », Jean Fabre amène l'idée de la schizophrénie fondatrice, qui rompt avec le principe d'identité et qui serait donc à la base de la formation du double. Selon lui, celui-ci serait une partie du moi qui prendrait une autonomie, en quelque sorte une instance psychologique qui se matérialiserait à l'extérieur de cette personne. En concevant le double de cette façon, il serait possible de proposer qu'Antonio soit la matérialisation d'une fragmentation du moi de Tertulliano. L'identité de ce dernier étant problématique, une matérialisation de cette seconde personnalité se ferait donc par Antonio Claro. Ainsi, la rencontre de son double identique et le conflit qui se construit donc entre eux ne serait pas réel. Mais le roman proposerait une représentation fantastique afin d'illustrer à travers la lutte de double ce en quoi Tertulliano est le porteur et de comprendre donc son basculement dans le conflit. Car comme le disait Michel Nevers, la lutte identitaire qui confronte les deux personnages se termine inévitablement par la mort, ici, de l'un des deux personnages. Dans le roman, donc, cette mort implique une assimilation de l'un à l'autre, ce qui provoque la transformation complète de Tertulliano Maximo Afonso en Antonio Claro, personne qu'il sera désormais. La prise d'identité se fait soudainement. Par son accident, ou du moins son suicide, cela reste très nébuleux dans le roman, Antonio meurt dans un accident d'auto alors qu'il se faisait passer pour Tertulliano. À la suite de cet événement, pris dans une situation délicate, Tertulliano se voit contraint de se transformer en Antonio Claro pour le restant de ses jours et de prendre sa place dans sa vie en faisant comme si c'était la sienne. Mais tout en prenant la place physique de son double, Tertulliano devient son double et s'y incorpore complètement. La transformation se fait donc autant au niveau physique qu'au niveau psychique, provoquant ainsi une véritable assimilation. Métaphoriquement donc, c'est la victoire du double qui est représentée, celui gagnant alors autant par la force que par la ruse. Cela dit, la complexité et la richesse du roman de José Saramago ne sont pas approuvées. Démêler les arguments et tenter de trouver un raisonnement logique au texte est même, jusqu'à un certain point, un peu dépourvu d'utilité. En ce sens, démontrer l'hypothèse que le livre puisse être une métaphore d'une lutte identitaire psychologique est délicat, voire extrêmement prétentieux. Car suite à la tentative si forte que nous avons eu de proposer une lecture personnalisée du roman, il nous apparaît alors que le sens ne s'y trouve pas nécessairement et qu'il en est en fait peut-être tout simplement absent. Et au fond, l'explication de ce livre est peut-être simplement qu'il n'y en a pas, par une volonté de l'auteur de justement mettre en scène l'inexplicable et l'impénétrable comme thème profond de son roman. Merci.